d'Haïti et des Amériques. C'est avec vous Anne Verdaguet, bonjour.
Bonjour Benjamin, bonjour à tous. On va revenir aujourd'hui sur l'élection présidentielle en Bolivie avec notre invité Kevin Partenay. Plusieurs instituts de sondage donnent Luis Arce, le dauphin de l'ex-président Morales, vainqueur avec 52, presque 53% des voix, donc haut la main. On va revenir sur le contexte politique, économique et social dans le pays et s'interroger sur ce qui attend Luis Arce. On parlera du Chili pour les un an du lancement d'un vaste mouvement social contre les inégalités et à une semaine du référendum sur la Constitution. Et puis aux États-Unis, est-ce que le scénario Hillary Clinton va se reproduire? Joe Biden en tête des sondages, sera-t-il perdant? C'est la question que tout le monde se pose et on en parlera avec Christophe Pachet. L'élection présidentielle en Bolivie avec la victoire annoncée de Luis Arce, le candidat du MAS, avec 52 voire 53% des voix et donc 20 points d'écart avec son rival de droite Carlos Mesa qui n'est crédité lui que de 31% des suffrages selon plusieurs instituts de sondage sortis des urnes, même s'il ne s'agit pas encore des résultats officiels. On va parler dans un instant avec notre invité de cette élection et du contexte très particulier dans le pays. Mais avant cela, Christophe Pagès, vous avez feuilleté les principaux titres des journaux de la région.
Oui, alors pour avoir le résultat final de cette présidentielle, il faudra attendre 3 jours, précise Los Tiempos, qui cite le tribunal électoral départemental. Mais déjà, la présidente par intérim, Jeanine Agnès, félicite Arce et Choquehuanca, son vice-président, titre le journal, et leur demande de gouverner en pensant à la Bolivie et à la démocratie. Luis Arce a immédiatement répondu qu'il gouvernerait pour tous les Boliviens, note Los Tiempos, qui souligne que le nouveau président affirme qu'il va construire un gouvernement d'union nationale, sans en préciser les contours, mais en apprenant et en dépassant nos erreurs en tant que mouvement vers le socialisme. Peut-être une référence aux manifestations de l'an dernier qui avait débouché sur le départ de son mentor Evo Morales. Evo Morales, qui remarque l'Arathon quelques instants avant la déclaration du nouveau président, anticipait déjà depuis l'Argentine la victoire de son parti et annonçait que Arce dirigerait un gouvernement d'union nationale.
L'Arathon, Christophe, qui rappelle le parcours du nouveau président.
Qui a été plusieurs années dans le gouvernement d'Evo Morales, entre autres comme ministre de l'économie. Lors de l'arrivée au pouvoir de l'ancien président en 2006, il a commencé un processus de récupération des entreprises stratégiques qui avaient été privatisées dans les gouvernements néolibéraux. Le journal rappelle que Luis Arce avait quitté le pays après la crise de 2019 pour le Mexique, puis était revenu rapidement en Bolivie. Los Tiempos, lui, pense surtout au coronavirus. Le nouveau gouvernement devra se charger le plus rapidement possible des urgences auxquelles le pays fait face, particulièrement celles qui découlent de la pandémie de Covid-19, la paralysie de l'appareil productif, la fermeture d'entreprises et la montée du chômage, et puis la menace de retour de la pandémie et le nécessaire renforcement du système de santé.
Merci beaucoup Christophe Pagès. Restez avec nous, on vous retrouve dans quelques minutes et on accueille tout de suite pour parler de la Bolivie. Kevin Partenay, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur en sciences politiques associé au Centre d'études et de recherche internationale. Cette victoire de Luis Arce, large victoire, on l'a dit, est-elle une surprise quand on sait qu'il y a un an, le président Morales, du même parti, le MAS, a dû quitter le pays après des soupçons de fraude?
Alors, elle n'est pas véritablement une surprise. On va dire ce qui est une surprise, c'est plutôt l'écart très important qui sépare le candidat donc gagnant, Luis Arce, du second, Carlos Mesa. Je crois qu'aucun observateur n'attendait une victoire aussi large de Luis Arce hier en Bolivie. Ce qui est réconfortant néanmoins, alors pas véritablement une surprise, mais c'est cette élection qui s'est déroulée on va dire dans de bonnes conditions, dans le calme, dans l'apaisement. Et je pense que si on regarde ce qui s'est passé hier à la lumière du contexte de tension très très forte dans lequel s'est préparée cette élection, avec une opposition féroce entre les diverses forces politiques, la surprise elle est peut-être aussi là, c'est-à-dire l'apaisement qui a régné pendant toute la journée.
Alors justement, parlons de cette situation politique et sociale, une situation que vous qualifieriez de très polarisée finalement.
Oui, c'est un pays qui est extrêmement polarisé. Ça, on le voit, on l'a vu d'autant plus depuis donc la crise d'octobre-novembre 2019, hein, qui a précipité le départ d'Evo Morales. Ce qui était tragique, c'est que on a vu justement avec le départ d'Evo Morales quelque chose qui dépassait de très loin l'élection et qui était une rupture profonde non résolue au sein de la société bolivienne, un problème de développement entre les classes moyennes, les classes les plus paupérisées et puis les classes les plus favorisées, une problème aussi culturel, hein, très très forte, avec des revendications, avec un discours de discrimination très très forte à l'encontre de certaines catégories de la population. Bref, on a vu de multiples divisions au sein de la société. Et c'est, je crois, un des éléments qui pouvait inquiéter, justement, avec cette élection, laissant à penser que le scrutin ne résoudrait pas tout. Et d'ailleurs, c'est une partie de l'agenda qui attend désormais Louis Sarcey. Mais là encore, compte tenu de ce contexte de très forte polarisation, je crois qu'on peut que se réjouir du bon déroulement du scrutin hier.
Et qu'est-ce qui explique, selon vous, que dans ce contexte extrêmement polarisé et, vous le disiez, un an après une crise sans précédent, le MAS est de nouveau en tête de cette élection ?
Oui, alors tout simplement parce que le MAS est parti aussi avec un résultat, enfin j'ai des performances économiques qui étaient quand même relativement louables. On a parlé du miracle économique bolivien avec quand même une économie qui était florissante, 5% de croissance, avec des mesures qui ont permis en tout cas de faire sortir une partie de la population de la pauvreté. Alors pas sortir la majorité de la population de la pauvreté, mais en tout cas essayer d'atténuer ou de limiter ces expressions les plus fortes d'exclusion et de pauvreté. En la matière, je crois qu'il faut mettre au crédit ce bilan-là positif. Et je pense que ce qui explique très largement la victoire du MAS, c'est aussi la grande fragilité de l'opposition, c'est-à-dire l'incapacité à se réunir pour être plus fort et avoir une proposition politique qui soit cohérente, homogène. On l'a vu entre la division de Carlos Mesa et Fernando Camacho, donc l'ultra-conservateur, où je crois que c'est une des responsabilités aussi de la droite, des droites, de ne pas avoir su se réunir pour pouvoir proposer quelque chose de cohérent face au MAS.
Alors, on parlait à l'instant de cette société très polarisée. Je vous propose d'écouter, Kevin Partenay, le reportage d'Oriane Verdier à La Paz. C'était après que des premiers résultats avaient commencé à circuler. On va l'entendre, cette population très divisée.
En début de soirée, de faux résultats ont circulé sur les réseaux sociaux annonçant la victoire du MAS au premier tour. Dans cette ambiance, le parti d'Evo Morales a donné rendez-vous aux journalistes devant l'un de ses bureaux dans le centre historique de La Paz. Mais rapidement, la tension est montée.
Nous sommes les voisins. Nous ne sommes pas d'accord pour qu'ils fassent ce qui leur plaît dans notre quartier. Ils n'ont pas le droit d'organiser cet événement. Ils voulaient mettre une estrade. Ils veulent montrer au monde qu'ils ont gagné, mais ce n'est pas vrai.
La jeune femme a les larmes aux yeux, tout comme sa voisine Alejandra. Elle ne veut pas croire que tout ce qu'elle a vécu l'année dernière lors des 21 jours de soulèvement qui ont poussé Evo Morales à l'exil n'a servi à rien.
Dans cette zone, nous avons passé des nuits à faire des rondes pour protéger nos maisons en octobre dernier. Nous avons peur d'une nouvelle révolte sociale qui nous pousse à nouveau à passer des nuits dans la rue pour veiller sur nos biens.
La police et l'armée finissent par investir les lieux. José, lui aussi, a les larmes aux yeux. Il vient d'être sorti de force de sa propre rue.
Ça fait très mal. Ça donne la rage. Tout le monde devrait avoir le droit de circuler dans la rue. La police dépasse ses attributions. Ce n'est pas normal.
Dans la petite rue pavée, une soixantaine de journalistes sont encore restés plusieurs heures dans le froid, accompagnés de chiens errants et de rangées de forces anti-émeutes. Finalement, le porte-parole du MAS a annoncé la victoire de son parti dès le premier tour dans une interview par vidéo. Il faudra attendre plusieurs jours, peut-être, pour que ces résultats soient confirmés officiellement. Oriane Verdier, La Paz, RFI.
Kevin Partenay, on l'entendait, une société donc assez divisée. Et est-ce qu'il faut s'attendre, selon vous, à de nouvelles tensions au sein de cette société bolivienne après cette élection de Louis Sarcey ?
Alors, l'avenir le dira. Je pense que ce qui est sûr, c'est que l'agenda qui attend Louis Sarcey est absolument colossal, autant face au contexte sanitaire qui est, on va dire, le contexte immédiat dans lequel il va devoir prendre le pouvoir, pour affronter aussi les questions justement de cette division de la société, les questions culturelles qui ont été extrêmement présentes, cette question économique, même si le bilan justement économique que je présentais tout à l'heure, il est très largement l'émanation de Louis Sarcey lui-même, hein, qui a été ministre de l'économie pendant près de 15 ou 16 ans. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il ne sera pas dérouté. Mais l'agenda est pour réunir en tout cas la société bolivienne et promouvoir la cohésion en son sein, je crois, est absolument décisif et c'est une lourde tâche qui l'attend.
Qu'est-ce qui différencie aujourd'hui Louis Sarcey de l'ancien président Evo Morales ?
Alors déjà beaucoup de commentaires sont en train d'émerger sur cette question-là. Je crois que ce qui est, de mon point de vue, le plus intéressant, c'est que contrairement à la figure très charismatique que représente Evo Morales, qui est un personnage politique, hein, issu du syndicalisme, figure politique. Manuel Arcel, lui, a un profil qui est beaucoup plus technique et beaucoup plus pragmatique. Il a fait une partie de sa carrière dans l'administration en tant que fonctionnaire. Il a été ministre de l'économie, il est formé à l'économie, c'est un technicien, il a fait des masters d'ailleurs à l'université de Warwick. Donc de ce point de vue-là, on n'est pas véritablement face à un animal politique au premier sens du terme, même si, on va dire, le vice-président va assumer cette charge, hein, David Chokewanka, qui est un des figures pilier du MAS. Louis Arcel, lui, se caractérise et se singularise par son profil qui est extrêmement pragmatique et extrêmement technique. Donc, de ce point de vue-là, je crois que la gestion et la mode de gouvernement, on peut l'attendre, en tout cas, il faudra observer ce qui arrive, mais il y a de fortes chances que ce soit radicalement différent de ce qu'on a connu avec Evo Morales.
Kevin Partenay, à quoi aspirent aujourd'hui le plus les Boliviens? Est-ce que c'est un retour à la normalité politique on peut l'imaginer à une pacification de la société?
Oui, bien sûr. Alors, pacification de la société, ça c'est certain. Je pense que les troubles qui ont été qui se sont déroulés en octobre et novembre dernier ont vraiment donné une image de la société bolivienne et de ses fragmentations, de ses fractures très profondes, hein, ont heurté la population. Au-delà de ça, je pense que il y a la question évidemment du développement, la question économique, hein, et de la cohésion sociale qui est essentiel, c'est-à-dire que l'héritage aussi du mandat d'Evo Morales a été une extension de cette classe moyenne, une classe moyenne qui aujourd'hui est extrêmement fragilisée par la crise sanitaire du Covid-19, dans cette idée un peu de piège du revenu moyen, c'est-à-dire une classe moyenne qui a atteint des niveaux de revenus plus élevés mais qui demeure extrêmement vulnérable face aux aléas de la conjoncture. Et en l'occurrence, cette question économique et sociale, elle va être prioritaire et les tâches sont ardues, encore une fois, pour Louis Arce. Et je crois que l'autre défi qui se présente et qui est très présent au sein de la population, c'est de regagner de la confiance vis-à-vis des institutions. C'est un point qui a été absolument fondamental depuis 2009, quasiment, avec les modifications constitutionnelles un peu à répétition. La crise très forte d'octobre-novembre a fait perdre de la confiance vis-à-vis des institutions de l'État. Et je crois que là encore, c'est un chantier important qui est devant.
Merci beaucoup, Kevin Partenay. Je rappelle que vous êtes professeur en sciences politiques associé au Centre d'études et de recherche internationale.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
La suite de la revue de presse des Amériques avec vous, Christophe Pagé. Et on se dirige vers le Chili à présent, qui commémorait ce dimanche le premier anniversaire des manifestations pour plus d'égalité sociale.
Oui, le 18 octobre 2019, surnommé le jour où le Chili s'est réveillé. Rappel El Día, hier dans la capitale Santiago, des milliers de personnes se sont réunies sur la Plaza Italia pour commémorer les 1 an de la vague de protestation. L'ambiance était très festive, contrairement à la semaine dernière où on assistait à des affrontements violents entre manifestants et policiers, note le journal, qui décrit la pancarte d'un des manifestants, que cela devienne une habitude jusqu'à ce qu'il nous respecte. El Día se souvient, tout est parti l'an dernier d'un appel des étudiants à descendre sans payer dans le métro de Santiago pour protester contre l'augmentation du billet de 800 à 830 pesos, un appel qui a abouti à la révolte la plus importante depuis la fin du régime d'Augusto Pinochet en 1990. La raison, selon Mathias Walker, une responsable du Parti chrétien démocrate interrogé par le journal, malgré 30 années de croissance économique et de réduction de la pauvreté, il y avait un sentiment de mal-être très grand. Une importante classe moyenne s'était créée, mais avec des problèmes de santé, de sécurité sociale, d'emploi, il y avait une sensation d'injustice.
Et hier, Christophe, l'ambiance n'était pas seulement festive, il y a eu des violences.
Deux églises brûlées et des troubles ont marqué ce premier anniversaire, titre Emol, au-dessus de deux photos, l'une montrant des milliers de manifestants pacifiques, l'autre, la tour d'une église à moitié tombée et en flammes. Hier, ce premier anniversaire avait deux visages, analyse le journal, deux visages que l'on a retrouvé tout au long de cette année écoulée dans le pays. D'un côté, des milliers de manifestants qui se sont réunis à Santiago et dans le reste du pays pour protester pacifiquement et sans désordre. De l'autre, des gens cagoulés qui ont multiplié saccages, incendies et affrontements avec la police, attaquant des commissariats à coups de cocktails Molotov. La Tercera rappelle que l'an dernier, face à ces deux situations, la violence et les demandes sociales, les partis politiques ont signé un accord pour la paix et pour une nouvelle constitution qui doit être adoptée ou pas par référendum d'ici quelques jours. Ne garder que l'image de la violence, aussi condamnable soit-elle, est à courte vue. La classe politique, les entreprises et les dirigeants doivent réagir à ce que la Tercera, comme El Día, appelle un mal-être et agir aujourd'hui en conséquence.
On termine, Christophe, avec les États-Unis.
Oui, avec la crainte partagée par les démocrates comme les républicains perdre la présidentielle. Les républicains parce qu'ils ont un retard important, ça paraît logique. Les démocrates parce qu'ils ont une confortable avance. Et là, il faut défaut de mots d'explication que l'on trouve dans ce titre du Washington Post, Biden devance Trump, comme l'avait fait Hillary Clinton. Pour les démocrates, cette campagne a un air inquiétant de déjà-vu, un air de victoire annoncée qui débouche sur une défaite. Je suis anxieux et coincé entre un optimisme débridé et une absolue terreur, confie le démocrate Abington Township. Cette fois, ils sentent le coup venir à des milliers de kilomètres, constate le Washington Post, qui rappelle, en 2016, entre début octobre et la dernière semaine, Trump a pris 3 points à Clinton sur les sondages nationaux et localement 4 points en Pennsylvanie et 3 en Floride, deux états où elle faisait la course en tête. Donald Trump en profite, lui qui a toujours écarté d'un revers de main les sondages qui lui sont défavorables, des sondages mensongers destinés à détruire ses votes.
Mais la situation est-elle la même aujourd'hui qu'en 2016, s'interroge le New York Times.
Oui, alors, comme il y a 4 ans, la campagne de Trump est un mélange de vantardise publique et d'anxiété privée. Cela n'a pas changé, note le journal. Seulement en 2016, Donald Trump avait terminé la campagne avec un message massu, traitant Hillary Clinton de corrompue et promettant des changements économiques de fond. Un message beaucoup plus clair que celui d'aujourd'hui. Car cette fois, note le New York Times, au lieu de se défendre sur sa gestion du coronavirus ou se démarquer de Joe Biden sur le terrain de l'économie, il occupe les jours qui lui restent à attaquer Hunter, le fils de son opposant, et à l'insulter.
Merci beaucoup Christophe Pagé pour cette revue de presse des Amériques. L'actualité des Outre-mer, à présent avec le journal La Première, présenté par Sarah Vildeuil. Bonjour Sarah.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
À la une, en Guyane, 7 communes viennent de voter pour les municipales.
Oui, ce sont les communes qui n'ont pas pu voter jusqu'au bout. Au mois de mars, coronavirus oblige. 5 maires ont été élus dès le premier tour hier. Il s'agit des communes d'Awalawalimapo, Roura, Rémire-Montjoly, Matoury et Papaichton. La crise sanitaire qui n'arrange pas non plus les affaires du gros cas en Guadeloupe. Le gros cas, c'est cette danse traditionnelle de l'île, sauf que sa pratique est désormais interdite en raison du coronavirus. Pour Rudy René, c'est une atteinte à l'identité culturelle de la Guadeloupe. Il est le président du collectif des associations de pratiques de danse et de musique traditionnelle.
Il faut savoir que depuis un certain temps, le préfet et plus communément le président de la République a dit qu'on était en guerre. Mais je ne savais pas qu'on était en guerre contre les musiques et danses traditionnelles. Et à travers cette pandémie Covid, automatiquement, les us et coutumes de ce pays sont vraiment bâillonnés à travers notre musique traditionnelle, qui est le gros cas. Et nous ne pouvons plus exercer dans le milieu traditionnel, ni en danse, ni en musique traditionnelle. La musique traditionnelle Groka n'a pas attendu le Covid pour pouvoir gérer les gestes barrières. Le seul truc qu'on rajoute d'ailleurs, parce qu'on est respectueux des gestes barrières, c'est le gel et le masque. Mais la musique Groka, je tiens à le rappeler, se danse seul et se danse avec une distanciation de minimum 2,50 m. 1,50 m à 2 m.
Les transports publics vont-ils devenir gratuits en Martinique? En tout cas, une étude vient d'être lancée par Martinique Transport. Louis Boutrin, le premier vice-président de l'organisme. Pour lui, cela devrait permettre de répondre à 3 impératifs.
Retombées sociales, compte tenu du poids des transports dans le budget des familles, notamment des familles nombreuses, retombées économiques, pour attirer de nouvelles populations en rendant les bourgs et les centres-villes plus attractifs et plus accessibles, retombées écologiques, le report modal attendu de l'automobile individuelle vers les transports publics, devrait contribuer à fluidifier le trafic actuel que l'on connaît dans la conurbation, permettre de diminuer l'empreinte carbone et les émissions de particules fines.
On reste en Martinique où la natation est de plus en plus populaire et ça, c'est grâce à un garçon de 12 ans. Christophe Malot a rejoint la Martinique à la nage depuis Sainte-Lucie, soit 40 km. Il a réalisé cet exploit il y a 10 jours dans le cadre d'Octobre Rose pour soutenir sa mère et toutes les femmes atteintes du cancer du sein. Alain Badian est le président de la Ligue de natation de Martinique.
C'est un très bon exemple pour nos jeunes et nos moins jeunes. C'est un exemple de courage, de ténacité et de volonté. Donc ce sont des exemples à suivre. J'ai beaucoup d'appels au sujet de Christophe Malot, même de Métropole, des radios qui veulent l'interviewer. Et c'est vrai que ça va certainement nous ouvrir des portes. En plus, il y a un livre qui a été fait, c'est une biographie de Christophe Malot, qui va être vendu, je crois, en Guadeloupe, en Métropole, qui est déjà vendu en Martinique. Donc ça permettra un petit peu à tout le monde de le connaître, de voir un petit peu ce qu'un jeune est capable de faire. Et nous, d'attirer du monde, d'attirer plus de monde.
Et c'est la fin de cette édition. Bonne journée.
Bonne journée. Merci à vous, Sarah Vildeuil. C'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, 15h10, heure de Paris, 13h10, en temps universel. Restez avec nous dans un instant. Votre émission sur la francophonie de vive voix. Pascal Paradou reçoit aujourd'hui l'académicien haïtien Dany Laferrière. Très, très bonne journée à tous.
RFI. Toute l'actualité à retrouver sur rfi.fr ou si votre connexion est lente sur m.rfi.fr.